105 FM.
The day I follow Aubrey Hill Clayton on a wet deck, that day, I cut my throat.
Salut et bienvenue dans Bande Geek Mafia. Bande Geek Mafia, c'est votre émission Info Culture tous les mercredis à 19h sur Radio G. Salut Anaïs.
Salut Seb.
Salut Pablo.
Salut Seb, salut Anaïs.
Alors on est mercredi.
Ouais.
Et ben ouais.
Et on est tous ensemble, c'est sympa.
Ah oh, c'est chouette. On est content.
Ça fait plaisir.
Ouais. On est content de vous retrouver dans le studio.
Voilà, dans les conditions du direct. Ouais. Impeccable.
Et à partir de dans 15 jours, on pourra refaire l'émission en vrai direct.
Ouais.
Alors de quoi on va parler ce soir?
On va parler de plein de choses. De bandes dessinées, de livres, de séries.
De séries.
Tout ce qu'on aime, comme d'habitude.
Voilà. Et puis, avec un petit clin d'œil, quand même, aujourd'hui, puisqu'on est sur une date anniversaire, n'est-ce pas, Seb ?
Hier, c'était les 40 ans de la mort du grand Bob Marley. Et d'ailleurs, on va écouter beaucoup de Bob Marley dans cette émission. Des morceaux peut-être moins connus, pour changer un petit peu de ce qu'on entend d'habitude.
Ouais.
Pour découvrir ou redécouvrir. D'ailleurs, on peut démarrer tout de suite l'émission avec Zion Train, Pablo.
Elle est géniale.
Dans
c'est
Bandit
une
Mafia.
De mes préférées. Elle est magnifique.
Sur Radio G.
Enjoy.
101.5.
La radio qui fait le point.
Bob Marley avec Zion Train, un choix
Zion
de Pablo.
Zion Train, oui, de l'album Uprising, qui est un magnifique album.
Et tout de suite, ouais, c'est Anaïs Sarah. Ouais.
Et c'était une découverte pour moi. Je ne connaissais pas cette chanson de Bob Marley. Creature
Shock Radio FM. Alors, comme on n'a pas l'occasion d'aller au cinéma en ce moment, on va démarrer l'émission avec une petite revue de presse.
Ouais, une petite revue de presse sur une catégorie de revues un peu spécialisées jeunesse. Je suis une adepte un peu de ces revues jeunesse et dont une...
Qu'on adore.
Et on va commencer donc par Topo, qui est l'équivalent de la revue dessinée, que vous connaissez peut-être, qui est donc l'actu dessinée pour les moins de 20 ans. J'avoue préférer le format de Topo finalement, qui est un peu moins dense. Je trouve que la revue dessinée, les reportages, ils sont assez costauds, et là c'est un peu plus court, donc ça permet d'aller un peu plus rapidement sur certains sujets. Là j'ai entre les mains le numéro de mai-juin 2021, le numéro 29, et j'ai repéré pour vous quelques reportages dessinés qui sont super intéressants. Il y en a un premier qui évoque en fait le lien entre les artistes et les plateformes de musique, savoir en fait finalement comment cette industrie fonctionne, comment les artistes gagnent de l'argent grâce à ces plateformes. Et voilà, Topo propose d'en parler cash. Donc c'est la rubrique des clics et du clash. Nous avons ensuite un deuxième petit reportage BD sur l'univers du jeu vidéo et le lien avec l'armée. Ça s'appelle « L'armée vise les gamers ». Et ils expliquent dans le petit résumé de présentation de cette partie, face à un recrutement de plus en plus difficile, les militaires se sont tournés vers l'e-sport et le jeu vidéo pour renflouer leurs troupes. Gamers, vous êtes dans le viseur. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir un petit peu le lien qu'il y a entre les deux. Autre question du moment, le patriarcat, c'est quoi ? Donc voilà, un autre... c'est quoi donc ? Eh bien, allez voir Topo et cette question du moment.
Il est partout, le patriarcat.
C'est ça.
C'est ça, le...
On a un super reportage aussi sur les livreurs.
Uber Eats et tout ça, là. Ouais, enfin, on n'a pas le droit de donner de marque.
Non, ouais, on pourrait en citer plein, les frères Toc, Deliveroo, voilà.
Voilà, il y en a vraiment.
Il y en a vraiment beaucoup. Et en fait, surtout en cette période de confinement, les livreurs sont très sollicités. Et donc, le reportage s'intitule « Livreur, l'autre prix de la course ». Parce que bien évidemment, le statut des livreurs est quand même assez compliqué.
Très précaire.
Ouais, c'est ce que j'allais dire.
Donc voilà, le reportage revient sur ce statut-là. On a... Alors là, vous savez, ma passion pour les films d'horreur.
Oui,
ok. Hein,
et on a justement un article qui est consacré à la mécanique du cauchemar.
Cool.
Vous vous êtes déjà demandé pourquoi une porte qui grince ou des pas qui résonnent dans la nuit peuvent vous terrifier lorsque vous regardez un film ? Petite explication pour les adeptes de grands frissons. Donc voilà.
Ça me plaît, ça.
Ouais.
Ça nous plaît tous, je crois.
Et dernier article, article dessiné qui m'a marqué dans ce dernier numéro de Topo, c'est un article sur TikTok.
Phénomène on en parle très beaucoup. Actuel,
ouais. Voilà,
les réseaux sociaux pour jeunes.
Ouais, grâce à son très jeune public et à sa large audience, TikTok déchaîne les passions au royaume des influenceurs. Cette appli pourrait bien finir par détrôner Instagram.
Ah oui, carrément.
Carrément. Donc voilà, on revient sur cette appli qui est particulièrement en vogue. Donc voilà, tout ça et bien d'autres choses encore sont à retrouver dans le numéro 29 de Topo.
C'est le numéro de mai, c'est ça ?
Mai-juin, exactement.
Excellent. Il est très riche.
Ouais, c'est toujours super, Topo.
Ouais, avec plein de dessinateurs différents, c'est assez génial.
Je voulais aussi évoquer, alors pas forcément vous parler de tous les articles qu'on retrouve dans le Science et Vie Junior de ce mois-ci, de juin 2021. J'ai repéré, en fait, ils font à chaque fois ils mettent en valeur des nouveautés, que ce soit des livres, des jeux de société. Et j'ai remarqué deux BD qui ont l'air super intéressantes, qui sont proposées par Science et Vie. La première, qui s'appelle Absolument Normal. Cosmo enchaîne les convocations chez le proviseur de son lycée. L'adolescent n'a pas joué de mauvais tour à quelqu'un, frappé un camarade, ni même répondu à un professeur. Le motif de convocation est bien plus désespérant. Cosmo est trop normal. Or, dans le monde où il vit, les enseignants, les parents et les autres élèves ont une forme surhumaine, se déplacent à la vitesse d'un éclair ou possèdent des sens aiguisés comme ceux des animaux. Bref, dans cet univers de mutants où les gens normaux semblent inutiles, que faire d'eux ? Vous en aurez un aperçu dans cette BD qui s'amuse à prendre les histoires de super-héros à contre-pied.
C'est excellent, celle. Donc, il est le seul à ne pas avoir de super-pouvoirs.
Voilà, je trouvais que c'était intéressant dans notre émission qu'on parle souvent de super-héros.
C'est vrai.
Que là, on est totalement à l'inverse. Et comment ce héros va se... Ce non-héros.
Oui, c'est ça. Cet anti-héros.
Cet anti-héros. Merci, Seb. Je ne trouvais pas le mot. Voilà, comment va-t-il s'en sortir ? Et puis, une dernière BD, qui est plutôt une BD documentaire, qui s'appelle Sous Terre, de Mathieu Burnia, édité chez Dargaud. On retrouve Hadès, roi des enfers, qui a décidé de tirer sa révérence. Mais il ne peut pas partir comme ça. Il doit trouver un remplaçant. Il passe donc une annonce à la surface pour recruter des candidats. Attiré par les promesses d'un emploi stable et bien payé, des candidats se présentent. Commence alors un jeu de massacre très instructif. Les postulants vont changer de taille à volonté pour explorer les différentes strates du sous-sol. Beaucoup périront dans l'opération qui se révèle, pour le lecteur, une découverte de la géologie et de la faune souterraine. Un tour de force de vulgarisation que l'on vous recommande. Voilà, je trouvais ça super intéressant.
C'est original, ouais.
Ce format un peu fictionnel pour nous parler de géologie. Donc, c'est les deux propositions de Science et Vie que j'ai retenues pour vous. Donc, Sous Terre de Mathieu Burnia chez Dargaud et Absolument Normal de Toussaint, Martus Cielo et Pizzetti édité chez Dupuis.
Super, merci Anaïs.
Merci beaucoup.
Alors on continue notre exploration de la discographie de Bob Marley avec Sun is Shining, parce que le soleil revient, mais la version originale, la vieille version du morceau de Bob Marley, dans Band Geek Mafia sur Radio G.
La radio qui fait. La radio qui fait, bien sûr.
Sun is shining, the weather is sweet, yeah. Make you wanna move your dancing feet. Gather the rainbow, yeah, yeah. Want you to know I'm a rainbow too.
Et voilà, c'était Sun is Shining, la version originelle du morceau, avant que Bob Marley ne réenregistre le titre avec les Wailers quelques années plus tard. Voilà. Vous savez tout. Creature Shock Radio FM. Tout de suite, Pablo nous parle de la série Sense8.
Voilà, Sense8, une série Netflix, une série de science-fiction en deux saisons. 2015-2018, réalisé par les sœurs Lana et Lily Wachowski et Joseph Michael Straczynski. Bande annonce, s'il te plaît.
C'est parti.
Peu savent ce que c'est que de renaître un jour en sensitif.
En quoi ?
Tu as vu Angelica, mais tu n'en es qu'au début.
aucune raison. Tu as 7 autres toi. Tu accéderas aux connaissances, compétences et à la langue de chacun. Aide-moi. Ils seront pourchassés. Et on n'a plus le temps. Et il faut t'enfuir.
Oh putain, je pète un câble.
Au contraire, ton esprit s'étend.
Oui, alors donc une série des sœurs Wachowski, les créatrices de la trilogie Matrix, qui reviennent avec une série à la fois très empathique, très humaine et évidemment tournée aussi vers l'action. Je vous présente le synopsis. Une femme se suicide dans les ruines d'un temple méthodiste situé à Chicago aux États-Unis. Sa mort mêle mystérieusement les existences de 8 individus éparpillés aux 4 coins du monde. En effet, Nomi, Will, Riley, Cafeus Sun, Lito, Kala et Wolfgang partagent désormais des expériences intellectuelles, émotionnelles et sensorielles communes et se retrouvent capables d'intervenir dans leurs réalités respectives. Ils ne sont pas les seuls à disposer de ces capacités et sont recherchés par une organisation aux desseins obscurs. L'histoire tourne autour de 8 personnes réparties à travers le monde qui deviennent soudainement connectées par les plans sur le plan intellectuel, émotionnel et sensoriel. La série explore les thèmes que les réalisatrices pensent être généralement ignorés par les séries de science-fiction, notamment la politique, l'intimité, l'identité, la sexualité, le genre et la religion. Ici, nous avons 8 villes, donc 8 inconnus, une seule connexion, une seule âme, 8 corps et 8 personnalités avec leurs talents et leurs compétences. 2 questions me viennent à la vision de cette série. Je vous les livre. Qu'est-ce que percevoir ? Et quel est le lien qui nous rattache aux autres ? Nous captons le réel par nos sens et va se former dans notre esprit conscient une image ou représentation mentale qui est immédiatement travaillée par notre raison, mais aussi par nos désirs, nos affects et nos émotions, mais également par notre imagination. Au final, cela donne la réalité que nous percevons. Cette réalité que nous percevons et nous représentons peut correspondre au réel objectif ou pas, mais aussi en différer, voire s'en démarquer nettement, comme lorsque nous y projetons nos propres désirs et illusions. Quel lien nous relie les uns aux autres ? Le phénomène de l'empathie qui se forme à partir des neurones miroirs qui se trouvent dans notre lobe frontal et se connecte à ceux des autres à travers nos yeux, à travers nos sens, d'une façon générale, nos yeux, l'ouïe, le toucher, et crée un lien énergétique, comme un lien invisible et ténu avec autrui, une mélodie qui passerait de l'un à l'autre de façon alternative ou continue. C'est cette capacité que nous avons de ressentir l'autre en nous, l'autre comme soi-même, d'inverser la perspective de notre subjectivité et de notre intériorité, de nous décentrer en dehors de nous-mêmes. C'est ressentir l'émotion d'autrui, la reproduire d'abord, puis la ressentir, l'éprouver, la vivre en nous-mêmes. Ce phénomène est amplifié et approfondi chez les Homo Sensorium, accrochez-vous, dont parle la série. Profondément humain, elle nous fait entrer en résonance avec le monde de ces personnages qui eux-mêmes sont en résonance entre eux. Le philosophe et sociologue Hartmut Rosa, dans La Résonance, une sociologie de la relation au monde, définit ce phénomène ainsi. Je parle de la résonance. Je cite. Un rapport cognitif, affectif et corporel au monde dans lequel le sujet, d'une part, est touché par un fragment du monde et où, d'autre part, il répond au monde en agissant concrètement sur lui, éprouvant ainsi son efficacité. La résonance se caractérise par 2 mouvements complémentaires. D'un côté, une ouverture au monde, une capacité à l'inviter et à se voir affecté par lui.
D'un autre côté, le pouvoir d'y agir et de reconnaître notre activité en lui. À l'opposé d'une relation résonnante au monde, l'auteur décrit une relation muette et froide, à un monde réduit à ses qualités instrumentales, ou une relation passive à un monde qui ne peut être que subi. La résonance vient avec le sentiment d'être porté et non jeté dans le monde, de l'éprouver comme un responsif, effrayant, attrayant et non répulsif ou dangereux. Merci de votre écoute.
Pablo pour cette superbe chronique.
Merci à vous, merci beaucoup.
Moi, j'ai pas vu cette série, mais j'ai bien envie. Hein.
Ouais, cool. Et là, on entendait les Four Non Blondes, très connu. Hein,
ouais. On sait qu'Anaïs adore ce morceau.
Ouais, j'adore. Ouais. Mais super, merci Pablo. Moi, j'hésitais à me lancer dans la série, bah tu m'as convaincu.
Cool.
Super.
Avec plaisir.
Alors tout de suite la suite, évidemment, après les Four Non Blondes. Un petit morceau de Bob Marley.
Yes.
Ah oui, c'est toujours les 40 ans hein, de la mort de Bob Marley. Alors
qu'est-ce que tu nous proposes?
Un morceau qui est peu connu, qui n'est pas vraiment un reggae, qui est à la fin d'un album de Bob Marley que j'adore. Il s'appelle Time Will Tell dans Band Geek Mafia sur Radio G.
101.5.
La radio qui fait le point.
Power to a fall head. Run, come, crucify the dread. Time alone, oh, time will tell. Think you
morceau bien sympa de Bob Marley, Time Will Tell.
Magnifique, une folk song.
Ouais, on est bien sur Radio G, tout à fait. Et tout de suite, la suite. Creature Shock Radio FM. Alors justement, on va parler musique, on va parler de Bob et on va parler un petit peu de Gojira quand même.
Ouais. Alors sur Bob, j'imagine qu'il y a énormément de livres documentaires qui sont parus sur sa vie.
Énormément.
Voilà. Mais moi, j'avais envie de vous parler d'un documentaire qui est finalement une BD documentaire sur Bob Marley, édité par les éditions Petit à Petit, que moi j'aime beaucoup, donc qui proposent plein de formats documentaires et BD. Ils ont notamment fait des BD sur des villes, comme sur Angers, oui. On est au premier volume encore sur Angers, mais
sur
voilà,
Nantes
Rouen,
aussi.
Nantes. Donc à chaque fois, il y a des épisodes en BD et puis une explication documentaire
ça,
derrière.
On avait reçu les créateurs de la BD angevine. On les avait reçus dans Bande
ouais,
de Mafia.
Parce que les éditions, si je ne dis pas de bêtises, Petit à Petit est nantais, il me semble.
Enfin, c'est local.
Ils sont locaux, quoi.
J'avais chroniqué dans une chronique précédente une BD justement sur David Bowie qu'ils ont fait. Qui est superbe.
Ouais. Et donc vraiment, ils ont un catalogue super. Là, j'ai entre les mains celle de Bob Marley, mais on a l'équivalent pour d'autres légendes comme les Beatles, comme les Rolling Stones, comme Michael Jackson, Barbara et Jacques Brel, dans le côté musical, mais il y a d'autres aspects, d'autres thématiques. Et là, donc, dans celle de Bob Marley, on a plein de dessinateurs qui se sont associés, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que donc, c'est par chapitre, ça retrace toute la vie de Bob Marley, et puis on retrouve à chaque fois des dessinateurs différents. Donc toujours une planche BD, et puis une partie documentaire. Donc voilà, vraiment à découvrir. Moi, j'ai appris plein de choses sur Bob Marley, parce que je ne l'ai jamais connu, comme voilà, il y a 40 ans, je n'étais pas née.
Tu n'étais pas née, Anaïs.
Donc voilà, mais forcément, on connaît tous Bob Marley, mais pas dans sa vie. Moi, j'avais des fausses idées sur sa mort aussi, par exemple. Donc j'ai appris plein de choses grâce à cette bande dessinée.
Fumais-tu? C'est le cancer qui l'a pris.
Ouais. Mais pas du tout un cancer du poumon.
Mais non, c'est ça en fait.
Le pauvre.
Oui, mais enfin, c'est lié. Enfin, à mon avis, enfin, oui. On va pas rentrer dans.
Non, mais voilà, c'est lié à ça, à une blessure toute banale qui s'est faite lors d'un match de foot. C'est pareil. J'ai découvert qu'il était vraiment passionné de football.
Il y a eu un match contre le FC Nantes. Bob Marley a joué contre le FC Nantes. Il y a eu.
Incroyable.
En fait, Bob Marley a chanté à Nantes. Et avant le concert, il est allé voir les joueurs du FC Nantes à l'époque au stade Marcel Saupin, avant la Beaujoire.
Ouais.
Et en fait, ils étaient en train de s'entraîner. Du coup, il a joué au foot avec eux.
Mais en fait, il faisait toujours ça.
Ouais.
Chaque fois, avant chaque concert, pour se détendre, il allait taper la balle comme ça et jouer un petit foot. Et ça m'étonne pas ce que tu racontes. C'est génial.
Donc voilà, c'était le petit focus sur cette BD documentaire avec entre autres Amo, Didier Milotte, Tanguy Pietri, Lucas, Joël Alessandra. Donc voilà, il y a énormément de dessinateurs qui ont participé à cette bande dessinée, à cette docu-BD.
Donc pour découvrir ou redécouvrir
Bob Marley
en BD.
Voilà, exactement.
Merci Anaïs.
De rien.
Alors on continue à parler de musique, mais cette fois-ci dans un autre genre. Parce que quand même, il y a eu un événement très important ces jours derniers, c'est la sortie du dernier album de Gojira.
Ouais.
Alors vous savez, mon amour pour le métal et en particulier pour ce groupe, donc je voulais quand même en profiter pour glisser un mot sur ce disque qui est phénoménal, donc il faut quand même qu'on en parle. Donc en fait, Gojira, c'est un groupe qui est né il y a 20 ans, à peu près en 2001. Ils sont landais, hein, les membres de Gojira, ils sont français, donc des Landes. Ils sont franco-américains pour une partie du groupe, mais bon, ils sont nés en France et ils sont français au départ. Alors, leur rêve, c'était de tourner avec Metallica. Eh bien, leur rêve est devenu réalité, hein, puisque notre petit groupe du Sud-Ouest a muté en mastodonte, hein, de la scène métal internationale. Ils ont été nommés, par exemple, deux fois aux Grammy Awards en 2017 pour l'album précédent, Magma, qui était un bijou émotionnel, hein, puisque les frères Duplantier avaient perdu leur mère à ce moment-là. Et puis Fortitude, le septième album vient de sortir et il est époustouflant. Voilà, c'est clair, il faut le dire.
Ouais.
Gojira revient, transporté par une nouvelle énergie, hein, c'est-à-dire une force dans l'adversité, lorsqu'on est à l'épreuve et qu'on arrive à rester debout. C'est un peu ça le message de l'album.
Mm-hmm.
Donc c'est un opus qui est visionnaire, qui a été mis en boîte au début de la pandémie de Covid-19, puis repoussé deux fois. Et puis finalement, il tombe à point nommé, là, puisqu'on sort on va sortir du confinement. On va pouvoir se faire plaisir.
Très bien.
Alors Gojira, c'est un colosse donc français hein, du métal dont je vous parlais. Et dans cet album, on a toutes les facettes du groupe. C'est-à-dire qu'au départ, c'est vraiment un groupe de death metal, un groupe même de death metal progressif. Mmh. Et là, en fait, ils sont partis vers quelque chose de très engagé. C'était déjà un peu le cas sur les albums précédents, mais là, par exemple, on écoutera un extrait tout à l'heure hein, d'Amazonia, un morceau de l'album qui veut venir en aide au peuple d'Amazonie qui sont en ce moment chassés de leur terre. D'ailleurs, le groupe a récolté des fonds grâce à ce titre. Ils ont récolté des millions de dollars pour aider à sauver ces peuples et puis à la reforestation du Brésil. Donc Amazonia, si vous voulez, c'est comme un cri de rage contre la déforestation qui ravage le Brésil. Donc vous voyez, les groupes de métal, c'est pas que des groupes de gars qui boivent de la bière, de bourrins et voilà, violents, pas du tout. Là, on a un groupe conscient.
Bah en fait, oui, moi ça me rappelle un concert que j'ai vu, je me rappelle il y a quelques années au Hellfest. C'était un concert de Napalm Death, groupe de death metal également, très bourrin, très très violent, mais en fait hyper engagé, hyper écologique, et voilà, sur le même engagement en fait que Gojira.
Et là, sur cet album, on sent bien l'influence de Sepultura aussi, pour ceux qui connaissent, en particulier les albums Chaos AD et Roots, voilà, qui datent des années 90. Et là, il y a vraiment un hommage, un clin d'œil, je dirais, à Sepultura. Donc voilà, donc cet album, il est varié. Il y a aussi des morceaux acoustiques. Joe Duplantier chante quelquefois aussi en voix claire. Donc il ne fait pas que hurler sur cet album. Il y a des morceaux qui sont presque suaves, si vous voulez, du métal.
Ouais.
Il y a des morceaux un peu folk, enfin acoustique, voilà. Donc il y a des chœurs, il y a des mélodies. C'est amplifié par les instruments électriques. Et puis il y a une surprise. Il y a un solo de guitare. Il n'y a jamais eu de solo de guitare dans aucun album de Gojira. Et là il y en a un. Et en fait c'est magnifique. Il nous propulse à milieu dans les airs.
Wow.
Les paroles, c'est laisse ce chant résonner dans tes os et te soulever. Et en fait, c'est vrai qu'on est soufflé par ce titre qui s'appelle The Chant.
Excellent. Voilà. On retrouve la résonance.
Exactement. Donc c'est un album truffé de refrains entêtants. C'est le plus chantant de Gojira, le plus collectif. Ils portent leur message universel. Ils ont réuni quand même plein de proches, et puis un grand ingénieur du son aussi, Andy Wallace, qui a mixé l'album. Voilà. On a des hymnes là qui vont faire trembler les stades quand on pourra retourner voir des concerts.
Excellent.
Vivement d'ailleurs qu'on y retourne.
Mmh,
donc voilà, je vous le conseille, l'album Fortitude de Gojira.
Et tu sais, Sébastien, je t'avais parlé de... Ils sont passés sur une émission de radio concurrente, mais néanmoins amie.
Oui, je crois qu'ils ont fait tous les médias là.
Et en fait, c'était hyper intéressant parce que moi, c'est pas du tout le genre de musique que j'écoute. Et ils ont vraiment bien expliqué ce que c'était que le métal. Et ils ont fait un parallèle avec la musique classique.
Tout à fait.
Et j'ai trouvé ça hyper instructif. Et moi, ça m'a permis de mieux comprendre ce genre musical que finalement je voyais pas de cette façon-là. Et
bien
ça
sûr.
M'a bien éclairé et ça m'a donné envie.
Alors, est-ce que vous voulez écouter un extrait?
Oui.
Ah oui, avec plaisir.
Alors, on écoute un extrait d'Amazonia, tiré de Fortitude, le dernier album de Gojira. C'est parti. C'était Amazonia, un extrait du dernier album de Gojira. Tout de suite, Pablo va nous parler d'une nouvelle série télé. C'est vrai qu'une série que j'ai vue moi aussi d'ailleurs qui m'a bien marqué, et je crois que Pablo également, cette série c'est The Serpent sur Netflix.
Tu veux dire le serpent ?
Oui, voilà, exactement.
Mais oui, mais c'est très bizarre parce qu'effectivement c'est The Serpent puisque c'est une série Netflix BBC. Le serpent donc effectivement 2021 dans le sillage du tueur.
Alors j'avais cherché moi Pablo juste avant que tu démarres pourquoi The Serpent et pas The Snake.
Alors, en fait, oui,
et bah, parce qu'en fait The Serpent ça existe en anglais mais c'est daté, c'est de l'ancien anglais, c'est vieilli quoi.
Okay. Ah voilà, mal. Et pour faire vintage un
pour
peu.
Pour faire ouais, pour je sais pas,
tout
faire,
à fait.
Parce que ça se passe pas à notre époque.
T'as la belle vie ici grâce à moi. J'ai pas été gentil avec toi. Alors tu comprends pourquoi j'ai du mal à accepter que. Tu veux y t'en aller d'un coup? Les amis sont toujours les bienvenus à la maison.
Tu nous présentes, Ajay?
C'est toi qui vends des pierres.
C'est lui qui vend les pierres. Mon mari, Alain.
Les autorités avaient préparé son extradition.
On a développé un réseau de courtiers dans toute l'Asie et l'Europe de l'Ouest.
C'est pour ça qu'on peut se permettre d'offrir des prix si attractifs.
À l'amitié.
Qu'est-ce qui nous arrive ?
Je recherche deux personnes. Je travaille pour l'ambassade des Pays-Bas. Leurs familles n'ont aucune nouvelle depuis plus de 2 mois. J'ai des lettres qu'ils ont écrites à leur famille, dans lesquelles ils disent tous les deux avoir rencontré un marchand de pierres précieuses français basé à Bangkok.
Est-ce qu'ils indiquent son nom à ce marchand ?
Non. Si le tueur n'est pas arrêté, des gens seront en danger. Moi, comparé à ça, qu'est-ce que je crains ? Vous voulez que je vous le dise ? Tu vois maintenant ce qu'il fait ? C'est un voleur et un assassin. Il falsifie les passeports de ses victimes.
Alors, le serpent. Pour cette présentation, je m'appuie sur le magazine Les Inrecuptibles du 7 avril 2021.
Personne ne m'a jamais attrapé.
Le serpent retrace les agissements et la traque de Charles Sobhraj, un tueur en série français et bien réel, qui a sévi dans l'Asie des 70s après plusieurs évasions. Il purge actuellement une peine de prison à perpétuité au Népal. Soutenu par une reconstitution d'époque soignée et un casting remarquable, dont l'époustouflant Tahar Rahim, souvenez-vous, c'était l'acteur principal dans Un prophète de Jacques Audiard en 2009. Cette mini-série britannique de Richard Warlow et Toby Finlay, s'impose comme l'un des shows les plus addictifs de ce début d'année. Visage rasé de près, cheveux mi-longs impeccablement peignés et lunettes rétro à vert teinté. C'est un Tahar Rahim méconnaissable que l'on découvre dans Le Serpent. Il campe Charles Sobhraj, escroc français tristement célèbre pour avoir commis entre 1975 et 1976 une série de meurtres. On pense qu'il en a une trentaine à son actif. Une trentaine, les amis. Sur la hippie, trail asiatique, principalement en Thaïlande, au Népal et en Inde. Il aura suffi d'un épisode soldé par un meurtre glaçant et un monologue hypnotique pour nous embarquer dans le sillage du tueur et de celles et ceux qui cherchent à le coincer. Jouant habituellement de la fascination trouble exercée par le personnage et orchestrant des moments de tension délicieusement insoutenables, Le Serpent est l'une de ces séries qui vous cueillent sans crier gare et mettent votre sommeil en danger. Une œuvre dont le venin ne se dissipera qu'après en être venu à bout le plus vite possible. Si l'on devait formuler un reproche à l'encontre de la série, il concernerait la structure en flashback,
dont les allers-retours incessants menacent d'en altérer parfois la part de mystère. Un choix narratif défendu par Warlow. Je cite deux points. Premièrement, l'enquête d'Hermann Knippenberg, un jeune diplomate de Bangkok, a débuté à quelques mois après les premiers meurtres. Et c'était important pour moi d'adapter son point de vue plutôt que celui de Charles Sobhraj. Beaucoup de séries récentes ont approché la figure du serial killer de l'intérieur. Mais j'étais plus intéressé par l'histoire de cet homme banal rencontré et confronté au mal absolu. Et pour le relier au parcours criminel de Charles, il fallait éclater la chronologie narrative. La seconde raison est que je n'avais pas envie de reléguer les victimes au second plan, comme c'est le cas d'ordinaire, mais de les approcher comme personnes sensibles et complexes dont les rêves ont été brisés. Les passages consacrés à ces victimes successives forment une arborescente digressive qui ancre le récit dans une époque, celle des dernières vibrations de la libération sexuelle, et esquisse un portrait générationnel très incarné. Partant de son personnage, et parlant de son personnage, Taha Rahim dit, je cite encore, deux points ouvrez les guillemets, « J'ai toujours voulu explorer chez un personnage, le mal chez un personnage, comme on a envie d'étudier d'autres langues. Quand j'avais 16 ans, j'avais lu le livre de Richard Neuville, « The Life and Crimes of Charles Sobhraj », qui traitait du criminel et traînait sur la table de chevet de mon frère. Il m'avait fasciné autant qu'effrayé. Mais j'étais suffisamment naïf pour ne pas me rendre compte de l'horreur qu'il décelait. Ce que je voyais en premier, c'était un acteur qui ne cessait de changer d'identité, qui avait du bagou et du charme, qui cambriolait et s'évadait de prison. » Merci de votre écoute. Donc je répète, c'est donc Le Serpent sur Netflix 2021. Bon visionnage.
Merci Pablo.
Ouais, c'est vrai que moi je l'ai regardé cette série, c'est bien bien flippant, c'est très mystérieux d'abord, et puis c'est bien angoissant parce qu'en plus c'est une histoire vraie. Donc,
c'est ça qui est terrible.
C'est terrible. Ouais.
Et
c'est très bien interprété.
Ouais, tout à fait.
Oui, la reconstitution, ouais. Ça se passe en Thaïlande, enfin il y a toute une ambiance. Et effectivement, c'est à voir.
Ouais, les échos sont plutôt positifs.
On se met un tout petit morceau de Bob Marley rapidement.
Allez.
Un petit Forever Loving Jam, mais on n'écoutera pas en entier.
C'est 1.5, la radio qui fait le point.
Lean upon this.
Voilà le grand Bob Marley dans Bob Geek Mafia sur Radio G.
Très planante, cette chanson incroyable.
Très belle chanson, merci Pablo.
Avec plaisir.
Pour ce choix.
C'est super.
Alors, on termine l'émission, on va parler de livres dans quelques instants. Creature Shock Radio FM. Alors moi, très rapidement, avant de laisser la parole à Anaïs, je voudrais vous parler d'un auteur que j'affectionne particulièrement et surtout de son dernier ouvrage, c'est Fabrice Caro. Alors Fab Caro, vous le connaissez peut-être si vous lisez les bandes dessinées, parce que c'est un scénariste de BD en fait. Il a fait plein de bandes dessinées avec Fabrice R et avec d'autres, c'est souvent très très drôle. Et Fabrice Caro, il publie aussi des romans qui sont jubilatoires. Voilà. Alors c'est l'auteur du Discours, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce livre, hein. Le Discours, c'était un livre hilarant. D'ailleurs, ceux qui n'ont pas ri en lisant le Discours, on ne peut plus rien faire pour eux.
C'est clair. Alors du coup, moi je vais le lire parce qu'il est sur ma bibliothèque,
ouais.
Et offert d'ailleurs par tes soins, mon cher Seb, et je vais
J'adore
bientôt le lire.
Et donc, il vient de sortir un livre qui s'appelle Broadway. Eh bien, la vie, c'est pas une comédie musicale, c'est moi qui vous le dis. Parce qu'en fait, c'est l'histoire d'un personnage qui a une femme, deux enfants, un emploi, une maison dans un lotissement où s'organisent des barbecues sympas comme tout, et des amis qui vous emmènent faire du paddle à Biarritz. Et donc, Axel, le personnage principal, il pourrait être heureux. Mais il fait le constat, à 46 ans, que rien ne ressemble jamais à ce qu'on avait espéré, quand il reçoit un courrier suspect de l'assurance maladie, le désenchantement tourne à l'angoisse. Il reçoit un courrier en fait pour faire un dépistage colorectal.
Waouh, mais non, c'est pas drôle ça.
Et normalement, c'est à 50 ans. Sauf que lui, il en a 46. Donc là, c'est l'angoisse totale.
C'est ça.
Et s'il était temps pour lui de tout quitter, de vivre enfin dans une comédie musicale de Broadway. Donc voilà, après le discours, Fabrice Caro, il confirme son talent unique de prince de l'humour absurde et mélancolique.
Attends, je vois pas le rapport entre le colorectal et Broadway.
Eh ben, il faut lire le bouquin parce qu'il y arrive. Si vous voulez, en fait, il dresse le portrait d'un homme qui fuit la réalité. Donc c'est l'occasion de scènes désopilantes, de répliques à se tordre de rire. C'est probablement le mec le plus drôle du paysage littéraire français.
Tu m'étonnes.
Il détourne chaque scène avec des détails de la vie quotidienne pour en faire des sketchs. C'est la comédie, c'est peu répandu dans la littérature, hein, sous nos latitudes en tout cas.
C'est vrai.
Et puis ben voilà, c'est un comique qui fait mouche. Voilà, donc moi je vous conseille vraiment cet auteur, Fabrice Caro. Le Discours et en particulier Broadway, son dernier livre.
Ok,
parfait.
Merci Seb, ouais.
Cool.
Et du coup, moi, j'enchaîne avec un livre aussi qui aborde un genre un peu atypique, je trouve, pour la littérature jeunesse. C'est le western. C'est assez peu courant. En tout cas, moi, j'en ai peu lu en littérature jeunesse.
C'est vrai.
Et là, on a donc Marion Brunet qui nous propose Sans foi ni loi et qui nous plonge dans le Far West. On y suit une hors-la-loi qui va débarquer chez Garrett, le kidnappé. Et forcément, il va être terrifié, Garrett. Pourtant, cette hors-la-loi qui s'appelle Ab Stenson est une femme indomptable. Et c'est elle qui va lui ouvrir les portes d'un avenir moins sombre, loin d'un père qui s'avère être violent. Fasciné par sa ravisseuse, Garrett découvrira ses plus grands secrets. Ce qu'on ne révèle qu'à ses plus proches amis. Dans son sillage, il rencontrera l'amour et l'amitié, là où il les attendait le moins. Jusqu'au bout de la route, où Ab lui offrira le plus beau des destins, la liberté.
Waouh.
Et ben,
joli.
Voilà, moi le western, c'est pas trop mon truc. Et ben, j'ai dévoré ce livre de Marion Brunet. C'est voilà, plein d'aventures dans un paysage de Far West, avec des personnages qui sont très attachants. Donc que je conseille vivement. Et Seb, je sais que Marion Brunet te disait quelque chose.
Oui.
Elle a publié il y a quelques années, Dans le désordre, un film sur des jeunes qui sont militants. Qui sont révoltés et voilà, qui participent à des manifestations, ouais. Et qui a dû avoir quelques prix peut-être.
Oui, c'était un très bon livre.
Ouais. Donc c'est voilà pourquoi donc Marion Brunet, Sans foi ni loi, chez PKJ. Et je voulais.
Génial.
Non, je voulais dire Fab Caro, ouais. c'est chez Gallimard, je crois.
Ok. Voilà. Et si j'ai le temps d'un petit dernier, de Charlotte Bousquet. Une autrice que j'aime beaucoup, aussi donc de littérature jeunesse, qui a publié pas mal de livres et qui a écrit aussi, qui a participé à des BD comme Mocuteur, Mot Rumeur, Barricade ou Rouge Tagada, que j'aime beaucoup ces BD. Et puis il y a un livre qui m'avait marqué en 2015, Là où tombent les anges, que je vous conseille également. Et donc là, elle vient de sortir chez Flammarion, Une fille dans la foule. L'histoire, rapidement, c'est Roxane qui se rend à une manifestation déclarée et pacifique avec ses amis, dont sa meilleure amie Maëlys, le moteur du groupe militante acharnée pour la protection de l'environnement. Bon, ça recoupe un peu, des fois, nos thèmes se recoupent. Bien que ce soit un sit-in pacifique, la place où se sont regroupés les jeunes manifestants est rapidement prise d'assaut violemment par les forces de l'ordre. Maëlys est gravement blessée, Roxane a subi elle aussi un choc en voyant son amie en sang. Mais les jours passent et elle a du mal à prendre de ses nouvelles. Elle sent la distance se créer entre elles, elle culpabilise. Toutefois, cet événement sera aussi l'occasion pour elle de faire le point sur ce qu'elle veut vraiment. Et continuer de suivre Maëlys dans ses combats ne semble pas en faire partie. Donc voilà, c'est sûr aussi le combat un peu militant, le mode d'action des uns n'est pas forcément celui de tous. Et donc l'auteur nous montre aussi, donc à travers le cheminement de son héroïne, que l'implication réelle ne naît que d'un engagement sincère et cohérent avec qui on l'on est. Il y a plusieurs croquis qui jalonnent l'ouvrage et qui apportent un vrai plus pour permettre au lecteur d'entrer dans l'univers du personnage central. Voilà. Merci. Donc je vous conseille également donc Une sympa. Fille dans la foule de Charlotte Bousquet chez Flammarion.
Voilà, que de bonnes lectures. Cool. Pour maintenant ou pour l'été?
Yes.
Oui, tout à fait.
Ouais.
Parce que l'été approche.
C'est
l'été
ça.
Sera chaud. Alors, on arrive à la fin de cette émission. On écoute un petit générique et puis après, on se dit au revoir.
Ouais, carrément.
Bah ouais.
The day I follow Aubrey Hale Clayton on a wet deck, that day, I cut my throat.
Voilà, c'était Bande Geek Mafia, votre émission Info Culture, tous les mercredis. Alors non, tous les 15 jours maintenant, sur Radio G jusqu'à la fin de la saison.
Oui, voilà.
Merci Anaïs.
Merci Seb, merci Pablo.
Merci Pablo.
Et bien merci à tous les deux, et donc, merci aux auditeurs.
Dans deux semaines.
C'est ça.
Même jour,
voilà.
Même heure.
Exactement, parfait.
Et on se quitte, bien sûr, avec un petit Bob Marley.
Ouais.
Of course.
Salut.
Enjoy. Salut.
Ciao, ciao.
Until the philosophy which owed one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war. It's a war that until there are no longer first class and second class citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes, it's a war. That until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race, it is a war. That until that day, the dream of lasting peace, world citizenship, rule of international morality, will remain in but a fleeting illusion to be pursued but never attained. Now everywhere is war, war. And until the ignoble and unhappy regime that hold our brothers in Angola, in Mozambique, South Africa, subhuman bondage, have been toppled, totally destroyed. Well, everywhere is war, is a war, war in the east, war.
will buy it. We find it necessary, and we know we shall win, as we are confident in the victory of good over evil.